Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et bienvenue sur le plateau de Tech & Co à Louis Hart Davis.
Bonsoir.
Bonsoir Louis, vous êtes le fondateur de Stratolia. Stratolia qui est issu de l'écosystème entrepreneurial de l'École Polytechnique. Vous avez reçu un prix, le prix Jean-Louis Gérondeau, Safran, il y a une semaine. Parce que, en fait, ce que vous faites est très malin, je trouve. Vous avez l'idée, d'observer la Terre et de créer, en fait, un espèce de service d'imagerie de la Terre par des ballons stratosphériques.
C'est exact, oui. Alors l'idée, c'est de venir imager une zone d'une taille d'environ 40 km de diamètre avec des ballons stratosphériques, donc des ballons qui vont être gonflés à l'hélium et qui vont se poser donc à 20 km dans la stratosphère, là où les vents sont les plus faibles, et qui vont pouvoir rester fixes sur la zone pendant des durées de 6 mois à 1 an et fournir autant d'images que nécessaire au-dessus de cette zone-là.
En fait, ce sont des ballons avec des appareils photo accrochés.
C'est ça, oui. En fait, il faut les penser plus comme des satellites qui se maintiennent en l'air, non pas par leur orbite, mais juste par des ballons stratosphériques. Et en fait, ils vont avoir les mêmes fonctionnalités et les mêmes propriétés qu'un satellite.
Mais un ballon, même s'il y a des vents qui sont faibles à 20 km d'altitude, malgré tout, ça bouge. Comment reste-t-il stable? On les télécommande, on les pilote malgré tout depuis la Terre?
Alors en fait, ils sont autonomes et votre question est intéressante puisqu'elle permet de mettre en lumière une des technologies cœur qui est les ballons manœuvrants. Donc en fait, on va exploiter justement les vents et la différence de vitesse de vent à différentes altitudes pour sélectionner l'altitude qui va nous ramener à chaque fois vers notre point d'intérêt. Et ainsi, on peut contrôler la trajectoire des ballons et les emmener là où on a envie qu'ils aillent.
Donc ce sont des ballons autonomes en quelque sorte.
C'est ça, oui, tout à fait.
Et qui vont surfer entre les différentes couches de vent pour rester toujours au même endroit.
C'est exact, oui.
Incroyable. Comment vous est venue cette idée, Louis?
À l'origine, on pensait à une solution pour régler la surveillance et pour gérer les feux de forêt, puisque en fait, les drones ont une autonomie qui est très limitée.
Oui.
Les meilleurs drones ont des autonomies de quelques heures au plus. Et aussi, ils ont besoin d'avoir un opérateur humain au sol pour les contrôler. Et à l'opposé, les satellites, eux, ne peuvent passer qu'une à deux fois par jour au-dessus d'un site. Et donc, ils ne fournissent pas assez d'images. Ils ont une fréquence d'image qui est trop faible pour pouvoir être efficace dans la gestion d'un feu de forêt, par exemple.
Sauf s'ils sont géostationnaires. Mais là, ils sont trop hauts.
Alors c'est ça, oui. Les satellites géostationnaires, eux, ils sont à 36 000 km. Et donc, ils peuvent fournir des images, mais la résolution, elle
est pas aussi précise.
C'est ça, oui. Elle est de l'ordre de 50 mètres. Donc, ça veut dire qu'un pixel au sol, ça fait 50 mètres. Et donc, on détecte les feux trop tard. Et ensuite, ouais, pour la gestion opérationnelle, c'est pas assez précis.
C'est-à-dire qu'en fait, votre service se positionne entre le drone et le satellite.
C'est ça, finalement. C'est un intermédiaire qui bénéficie un peu de la capacité d'être géostationnaire, enfin en tout cas d'être fixe au-dessus d'un point comme un drone, mais en même temps qui permet de prendre une large zone comme un satellite.
Alors, c'est des caméras qui vont filmer donc en altitude à 20 km. Alors c'est pas toujours très clair, hein. Tout dépend après des conditions météo, mais ça c'est un peu comme les satellites aussi. S'il y a des nuages, il va falloir attendre que le temps s'éclaircisse. Mais après, à partir du moment où on a une bonne visibilité, on arrive à avoir quelle précision dans l'image à 20 km d'altitude.
Alors effectivement, on est aussi sensible aux couvertures nuageuses puisqu'on est au-dessus comme un satellite. Et par temps clair, on pourrait avoir une image qui va jusqu'à 10 cm de résolution. C'est-à-dire qu'un pixel au sol aurait une taille de 10 cm.
Quoi. Donc c'est d'une précision inégalée, quoi, en quelque sorte.
C'est ça, oui. C'est au-dessus de ce que fournissent les meilleurs services de constellation d'imagerie commerciale. En revanche, on peut pas identifier quelqu'un, on peut juste identifier un modèle de véhicule, par exemple, avec cette résolution.
C'est-à-dire qu'on verra un individu bouger, mais on pourra pas le reconnaître.
C'est ça, tout à fait.
Et ça, c'est aujourd'hui. Peut-être que demain, on aura des caméras avec une telle précision et une telle qualité de zoom que ça sera peut-être faisable, non ?
Ça sera peut-être faisable, oui. Mais après, pour cette application, c'est probablement plus judicieux d'utiliser un drone, par exemple.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura plusieurs capteurs. Hein. Il y a aussi l'infrarouge et l'infrarouge thermique aussi.
C'est exact, oui, parce que en fait, on se rend compte que par rapport aux satellites, on a un avantage qui est qu'on bouge pas très vite, et donc on peut mettre des capteurs qui sont moins sensibles et donc moins chers, et en particulier des capteurs qui visent certaines bandes spectrales, qui permettent d'avoir des applications très précises. Donc, par exemple, comme l'infrarouge thermique, où on va pouvoir évaluer identifier des bâtiments qui sont qualifiés de passoires thermiques, par exemple, mais également viser certaines applications comme la détection du méthane, du diazote ou d'autres molécules d'intérêt qu'on aurait intérêt à cibler.
Et donc, avec ce type de ballon, quels pourraient être les usages? Alors, vous en avez dévoilé quelques-uns, mais ils pourraient servir à quoi, ces ballons, en fait?
En fait, tout acteur qui a besoin d'imagerie régulière au-dessus d'un site pendant une longue durée pourrait avoir besoin de ce service d'imagerie. Et donc, les feux de forêt, plus généralement, la gestion de crise, donc tout ce qui va être réaction après un tremblement de terre, une inondation, et toute crise, ou même pour... sécuriser des grands événements, par exemple les Jeux Olympiques. On sait que pendant une longue période, ça sera utile d'avoir de la surveillance en continu sur une zone, et donc ça peut servir à ça. Pareil pour les festivals ou des événements politiques comme un G20, par exemple.
Parce que ce qui est intéressant, c'est que en vous écoutant, finalement, ces ballons pourraient être lancés à la demande, en quelque sorte, même pour des événements brefs.
C'est ça. Donc, à l'origine, au début, on va avoir un nombre limité de ballons, et donc on va les envoyer à la demande, et donc sélectionner des contrats de longue durée ou sur une observation de plusieurs mois.
D'accord.
Mais à terme, notre ambition, c'est de déployer une flotte complète de ballons, de manière à ce qu'il y ait toujours en l'air un certain nombre de ballons, et que tout acteur qui veuille observer un événement en direct puisse solliciter un des ballons et avoir presque instantanément la capacité d'avoir de l'imagerie en direct sur ce qu'il souhaite observer.
Alors, vous en êtes où aujourd'hui? J'imagine que là maintenant, on va rentrer dans le dur, il faut le financement, non?
C'est ça, oui. Alors, aujourd'hui, on est trois, donc c'est le début de l'aventure.
Ouais.
Donc Hugo, mon cofondateur, et moi, on a recruté un alternant, Dylan, qui lui est en alternance à la Sorbonne. Et donc, on va effectivement rentrer dans le processus de recherche de financement en 2023, et on sait que ça va être une bataille compliquée.
En tout cas, bravo, parce que c'est un excellent projet. On vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup, Louis Hart Davis, donc fondateur de Stratolia. Merci.
Merci à vous.
Et dans un instant, Tech & Co se poursuit. On va revenir sur Terre avec une activité un petit peu plus tranquille. C'est la lecture. La lecture numérique est-elle en train de se consolider, notamment en France? La réponse avec mon invité David Dupré, le président de Viblio, qui me rejoint sur ce plateau. À tout de suite.